Radio JV présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu Killer Instinct, sorti en 1994 et 1995, respectivement en arcade et sur Super Nintendo, et développé par Rareware. Il sera comparé aux autres jeux de combat sortis avant et après lui, et notamment à la série des Street Fighter, des Darkstalkers et des Super Smash Bros.
Première partie, introduction et problématique.
J'ai une relation complexe avec les jeux de combat. S'ils ne manquent jamais de m'attirer, et si j'y joue de temps à autre et notamment avec de proches amis, je n'ai jamais su y briller d'une façon ou d'une autre. C'est qu'il y a là une complexité, même dans les plus simples d'entre eux, un besoin nécessaire de contrôler l'espace et de connaître sur le bout des doigts les coups spéciaux de chaque combattant qui m'a toujours dépassé. À l'époque pourtant, l'un de ses représentants m'a amené à faire cet effort, Killer Instinct. J'avais acheté le jeu surtout car Rareware, le Rareware des Donkey Kong Country, l'avait développé. Et plus que Street Fighter 2, plus que Mortal Kombat, que je connaissais pourtant, ce fut lui, le premier jeu de ce genre que j'explorais. Au-delà de sa patte graphique, de son gameplay, de son système de combo, quelque chose m'avait surpris et me surprend encore. La façon dont les rounds sont divisés au sein d'un combat. Effectivement, si les développeurs faisaient débuter une autre phase de jeu lorsque la barre de vie d'un des opposants était réduite à néant, il ne remettait pas celle du vainqueur à 100%, mais la laissait en l'état. Cela permettait alors au bon joueur de bénéficier d'un avantage non négligeable et de conserver la vie qu'ils avaient pu mettre de côté. Contrairement aux autres jeux du genre, dont ceux que j'ai cités à l'instant, il fallait songer davantage à ses approches et ne pas se lancer dans la mêlée sans s'y soucier, avec l'assurance de repartir de zéro, mais jouer parfois la prudence et faire en sorte de se protéger beaucoup et frapper avec intelligence. Cette simple modification d'un gameplay qui, en elle-même, peut paraître de l'ordre du détail, n'a pas cessé cependant de me fasciner, car elle m'a semblé, pendant très longtemps, prendre le contre-pied de la virtualisation inhérente à ce signe de la barre de vie pour aller dans le sens de la réalisation, si je reprends les termes définis lors de mon émission sur Donkey Kong Country. Effectivement, si vous êtes un jour contraint de vous battre contre quelqu'un ou, de façon plus institutionnelle, si vous vous lancez dans un combat de boxe, ce combat sera entrecoupé de plusieurs étapes et la fatigue s'accumulera pour les belligérants, mais vous ne serez jamais totalement en forme. Outre, alors, de proposer un rythme de jeu moins haché, Killer Instinct semblait effectivement proposer une expérience de combat plus proche de la réalité que ses modèles et ses épigones. Et pourtant, en y repensant régulièrement, et en le comparant et à Street Fighter, et plus loin à Darkstalkers qui exploite encore différemment la barre de vie en demandant aux joueurs de multiplier les coups sous peine de voir un peu de santé régénérée, je me suis rendu compte que je m'étais mépris et qu'en réalité, il n'y avait pas de signe plus vidéoludique plus représentatif de sa grammaire propre que la barre de vie. Un élément en particulier se doit d'attirer l'attention. Mortal Kombat introduisit, du moins popularisa, car je ne saurais m'engager sur des questions par trop historiographiques, le principe des fatalités ou finishing moves. Prosaïquement causant, lorsque la barre de vie de l'adversaire est réduite à néant, quelques secondes sont allouées au joueur pour rentrer une combinaison complexe de boutons et lancer un coup spécial spécifique qui viendra tuer l'opposant d'une façon violente, grotesque ou amusante. Avec le temps, un très grand nombre de jeux de combat ont repris ce genre de choses et la tendance a été, évidemment, vers l'exagération et le sanglant. À nouveau, l'on peut considérer la chose comme réaliste. Pour tuer un opposant, rien de tel que de lui exploser le crâne, on s'assure ainsi que jamais il ne reviendra à la vie. Mais d'un autre côté, non seulement la chose n'est pas unanimement répandue dans le genre, et d'autre part, l'on peut achever son ennemi d'un simple coup dans le tibia, car sa barre de vie a été réduite à néant. Imaginez-vous la scène, vous, le héros blond à la petite épée, face à un rébo géant aux yeux furieux. Le combat fait rage, mais à force de patience, de malice et de talent, sa barre de vie se réduit peu à peu jusqu'à ce qu'il ne lui reste qu'un seul pixel de vie. Et au lieu de lancer une attaque rageuse, de le fendre en deux ou de provoquer un court-circuit fatal, vous effleurez son pied avec le vôtre. Le voilà alors faire un bond de 2 mètres en arrière en lançant un cri déchirant, retomber lourdement sur le sol et agoniser dans d'infinies souffrances. Racontée ainsi, la chose paraît presque comique, comme sortie d'un sketch des nuls ou des inconnus. Et pourtant, elle n'étonne plus. Si l'on associe alors, avec ce fonctionnement tout particulier des jeux de combat, le principe même de la barre de vie et le choix fait, ou non, de la restituer au début d'un round ou d'un combat, on ne peut que s'apercevoir que nous sommes là en présence d'un phénomène qui demande explicitation et qui demande à être mis en relation non seulement avec l'essence des versus fighting, mais également avec le jeu vidéo dans sa totalité comme fabrique de fiction. C'est pour alors tenter d'explorer ses particularités en prenant Killer Instinct comme point de référence que je poserai la problématique de cette émission comme suit. Pourquoi la barre de vie du vainqueur dans Killer Instinct ne se remplit-elle pas à la fin d'un round?
Deuxième partie, créer la vie, marquer des points.
Tout d'abord, il convient de s'interroger précisément sur ce qu'est une barre de vie dans un jeu vidéo et ce qu'elle représente effectivement. J'avais déjà évoqué ce sujet, indirectement, dans mon émission consacrée à Metal Gear Solid, et j'avais indiqué que la barre de vie, contrairement à son nom, ne représentait pas la vie du personnage qu'elle accompagne. Je vais revenir plus précisément ici sur ce qu'elle est effectivement et son rôle véritable dans l'économie d'un jeu qui choisit de l'utiliser. Encore une fois, je ne m'aviserai pas à décréter que tel ou tel jeu fut le premier en la matière. Je laisse ces questions aux spécialistes. De même, je ne ferai pas de différences ici sur la forme des barres de vie et je considérerai qu'est une barre de vie un signe présent dans un jeu vidéo, que ce soit directement à l'écran ou dans un sous-menu, qui illustre sous une forme chiffrée, en volume ou en couleur, le nombre de coups reçus par le joueur ou qu'il peut encore prendre. J'écarte alors Par cette définition, les jeux qui tuent le joueur au moindre coup, ceux qui proposent des power-up ou des objets qui permettent de prendre un coup supplémentaire, tels les boucliers, les modules ou les compagnons, ou ceux qui modifient l'apparence du personnage en fonction de cette donnée, tel Super Mario Bros, ou la distinction entre Mario et Super Mario, se réduit aux erreurs que peut faire le joueur avant de perdre une vie. De façon connexe, cela m'amène ici à considérer qu'il y a effectivement une barre de vie dans Sonic the Hedgehog, dans la mesure où les anneaux, indication chiffrée, agissent comme une barre de vie, ne comportant que deux unités intermédiaires effectives, 0, le joueur mourra au moindre choc, et supérieur ou égal à 1, le joueur peut prendre un coup. Ce modèle, simplificateur par définition, nous permet alors de déterminer que la barre de vie, quelle que soit l'époque, le genre, la forme qu'elle peut prendre, possède trois caractéristiques majeures. Premièrement, elle est scalaire. Par là, j'entends dire qu'elle possède au moins trois statuts, pleine, vide et intermédiaire, entre ces deux bornes. Ce statut intermédiaire peut ensuite être divisé et subdivisé en plusieurs moments successifs, sans qu'il y ait de règles parfaitement établies ici. Deuxièmement, elle est interactive, c'est-à-dire qu'elle se modifie en fonction de l'environnement du jeu. Contrairement à un décor d'arrière-plan ou au sol où se meuvent les personnages, son statut évolue en fonction des actions du joueur. Certains objets la rempliront ou la videront, les ennemis la grèveront, et ainsi de suite. Troisièmement, sa déplétion parfaite scande la fin de la partie en cours, perte d'une vie ou game over en fonction d'autres paramètres. Les deux premières caractéristiques, il faut le noter, sont arbitraires. C'est au développeur de décider unilatéralement la longueur de cette barre de vie, si elle peut être augmentée ou diminuée, les coups qu'il porte, les objets qui la restaurent. La troisième caractéristique, en revanche, est une convention, à ma connaissance, unanimement reconnue par tous les jeux la possédant. Autrement dit, il convient d'observer ici que seul ce dernier point tire vers la réalisation. Mais comme elle est intimement liée aux deux premières, elle a également sa part d'arbitraire, du moins d'un point de vue procédural. Si nous replaçons alors cette donnée dans le cadre d'un jeu vidéo et que nous l'évaluons à l'aune du principe d'action-récompense qui régit le média dans son ensemble, il est possible de considérer que la barre de vie ne représente pas stricto sensu la vie du personnage ou de l'opposant, quelle que soit la définition que nous pourrons donner à ce terme, mais bien la proximité de la récompense qu'offre la mort de l'ennemi ou bien la possibilité qu'a le joueur de poursuivre ou non sa partie. Autrement dit, loin d'être une représentation plus ou moins abstraite, plus ou moins élégante, de la force vitale d'un personnage, s'il pouvait exister dans notre monde, elle représente davantage la distance effective qui sépare le joueur et son héros de la réussite ou de l'échec de sa mission. C'est en cela que nous pouvons considérer qu'une barre de vie n'est en réalité qu'une variante, qu'une alternative au score que l'on peut trouver dans les simulations sportives, la seule différence étant cette troisième caractéristique qui provoque la mort du héros s'il vide sa barre de vie. Elle n'a aucune relation avec la santé, la force, la vitesse du héros ou de l'ennemi. Ce qui permet alors de mieux comprendre qu'un boss, mettons, voit sa force et sa résistance augmenter alors que, paradoxalement, sa barre de vie diminue. Si celle-ci représentait bien son énergie, non seulement les combats deviendraient progressivement plus faciles, mais, de plus, l'on n'aurait guère besoin, comme on le voit régulièrement, d'indicateurs supplémentaires de puissance ou de vitesse sur l'écran de jeu. C'est ce principe qui a notamment conduit les développeurs à introduire, dans Banjo-Kazooie notamment, des barres d'oxygène à côté des barres de vie des personnages, alors que, comme me l'avait déjà souligné mon père à l'époque, moins on a d'oxygène, moins on a d'énergie.
Troisième partie, réussite, échec et intelligence de jeu.
Ceci étant posé, replaçons-nous dans le cadre des jeux de combat et notamment de Killer Instinct. Si la barre de vie, comme nous l'avons supposé, n'a aucun lien avec la force du personnage auquel elle se rapporte, qu'indique-t-elle en réalité ? Observons de plus près son fonctionnement. Au début d'un match, les deux barres de vie sont remplies parfaitement. À compter de là, et à l'exception du boss Idol, que le joueur peut incarner grâce à un code secret, cette barre de vie ne peut que diminuer. Cette diminution ne peut s'accomplir que par l'action de l'autre belligérant. Chaque coup porté la fait diminuer, y compris si ce coup est effectivement bloqué. Bloquer une attaque, néanmoins, fait bien moins diminuer la barre de vie qu'un autre, et les coups spéciaux, de même que les combos, peuvent très rapidement la réduire à néant. Une spécificité de Killer Instinct, et qui s'observe de même dans la barre de vie, est le flash. En effectuant un certain coup spécial pour certains personnages, ou souvent en réussissant un combo breaker, une étincelle apparaît dans la barre de vie. Ce faisant, les coups du joueur seront légèrement plus puissants et l'on pourra en effectuer de nouveau. Encore une fois, cela témoigne de la déconnexion entre barre de vie et personnage jouable, cette indication pouvant être présente, dans d'autres jeux, sous la forme d'une barre de furie ou d'icônes diverses. Il est alors possible de considérer, selon notre étude du signe, que la barre de vie représente une indication de score. Ce score est entièrement assimilable à celui d'une partie de baseball ou de basketball. Il indique le nombre de points remportés, assimilé ici au nombre de coups effectivement donnés à l'opposant. L'objet est le même. Il s'agit d'en remporter davantage que l'adversaire, ce qui signifie vider sa barre de vie avant qu'il ne vide la nôtre. Si jamais le match se termine avant cela, c'est le personnage qui a le plus de vie qui gagnera finalement, puisqu'il aura porté bien plus de coups ou marqué plus de points que son adversaire. C'est alors que le choix fait par les développeurs de ne pas recommencer un round de zéro, mais de conserver l'avance du joueur prend tout son sens. Au cours d'un match de football, le score n'est pas remis à 9 entre chaque mi-temps. Il s'avère alors que l'objectif du joueur, en termes de réussite et d'échec, est distinct de ce que l'on peut observer dans les autres jeux du genre qui segmentent leur progression. Faisons à nouveau un parallèle avec le sport et reprenons l'exemple du football. Hors matchs amicaux, les compétitions nationales et internationales, bien souvent, exploitent deux systèmes parallèles de score. Il y a, tout d'abord, le score du match en lui-même qui détermine quelle équipe remporte effectivement la partie. Ensuite, il y a un classement général qui permet d'établir une hiérarchie entre les équipes, y compris entre celles qui n'ont pas encore joué ensemble. Ce deuxième système de points utilise une comptabilité distincte, prenant en compte soit le nombre de buts marqués ou reçus, soit attribue une valeur numérique aux trois issues possibles d'un match, victoire, défaite ou match nul. In fine, ce décompte permet également d'organiser, au terme des phases préparatoires, les futures rencontres. Ce double décompte crée alors souvent des incongruités exploitées par les entraîneurs afin de moduler les branches du tournoi en leur faveur. Aussi s'arrange-t-il parfois pour perdre ou chercher le match nul, encore gagner avec un certain nombre de buts d'écart, afin d'affronter un adversaire considéré comme plus accessible pour leur équipe. Ce système particulier demande alors de gérer simultanément deux objectifs qui peuvent être complémentaires mais également, comme je viens de le préciser, antagonistes. Et c'est ce que l'on rencontre précisément dans Killer Instinct en comparaison de Street Fighter. Dans le cadre d'un jeu de combat où chaque début de round remplit à nouveau la barre de vie, il est tout à fait possible d'adopter une stratégie proche du kamikaze, où le nombre de coups reçus, autrement dit le nombre de points obtenus par l'adversaire, n'a que peu d'importance dès l'instant où on parvient, in extremis, à en glaner davantage. L'on peut alors foncer tête bêche dans la bataille, se laisser frapper, en sachant fort bien qu'une ouverture apparaîtra alors et qu'on le prendra finalement le dessus. Ici, c'est la vision d'ensemble qui prime, et uniquement celle-ci. Remporter une victoire parfaite, soit sans se faire toucher, ou bien l'emporter au finish, n'a aucune espèce d'importance, si ce n'est pour un décompte de points. Dans le cas de Killer Instinct, l'approche sera différente, étant donné que la barre de vie du gagnant n'est pas remise parfaitement d'aplomb à la fin d'un round. Ces points conservés pourront faire toute la différence dans la suite du combat. Il ne s'agit pas seulement de remporter la victoire, mais de préparer déjà la future confrontation. C'est là également que le principe des combo breakers prend tout son sens. L'avantage qu'il confère vis-à-vis du flash, que j'ai écrit plus haut, exige effectivement de laisser l'adversaire commencer une attaque pour, ensuite, répliquer et prendre l'avantage. Ce système n'aurait su être inclus autrement, car il ne prend son sens que dans une vision plus intime du principe de victoire, où la prise de risque ne doit pas être sanctionné par une mort prématurée. Encore une fois, nous voyons bien ici de quelle façon l'inclusion d'un signe vient influencer profondément tous les autres avec lesquels il fonctionne et doit fonctionner en parfaite intelligence. De plus, une fois considéré que, dans Killer Instinct, comme dans tous les autres jeux de combat, la barre de vie est une indication chiffrée de réussite, cela nous permet alors de parler plus en détail de certains jeux qui présentent également des variations quant à cet élément.
Quatrième partie, cercle vertueux et artificialité revendiquée.
Notamment, j'aimerais revenir ici sur deux sagas particulières qui illustrent, davantage encore que Killer Instinct, ce rapport artificieux et scoré de la barre de vie dans les jeux de combat. J'évoquerai ici alors, successivement et succinctement, la série des Darkstalkers et celle des Super Smash Bros. Darkstalkers, s'il est proche en traitement et dans son esprit de Street Fighter, propose à compter de sa troisième itération un système de jeu intéressant. Lorsqu'un coup est porté, et à l'exception de certains coups spéciaux ou enchaînements, la vie de l'adversaire remonte progressivement si un autre coup n'est pas immédiatement porté. Conséquemment, ce principe amène le joueur à être on ne peut plus agressif ou, au contraire, à jouer la défensive pour se tirer d'un mauvais pas. Mais si nous nous replaçons sous l'angle de la description du concept et du signe, nous pouvons alors considérer que pour qu'un point soit effectivement enregistré dans ce score qu'est la barre de vie, il doit être validé une deuxième fois. L'essai, peut-on dire, se doit d'être transformé. Super Smash Bros. Et ses suites, quant à lui, propose de réduire le concept de barre de vie à un pourcentage, s'incrémentant avec les dégâts et facilitant alors l'éjection qui scande la fin du combat. L'on aura alors souvent considéré que cette série était à part des autres versus fighting à cause de cet élément. En réalité, non seulement ce symbole lui permet d'être univoquement rattaché à cette catégorie, mais de plus, il fait preuve d'une grande honnêteté en le présentant comme ce qu'il est réellement, un score enregistrant les réussites ou les échecs du joueur et le nombre de coups portés. La différence majeure tient alors à la façon dont un match se termine. Il ne convient pas d'atteindre un certain pourcentage, mais, encore une fois, de transformer l'essai par l'intermédiaire d'une éjection facilitée par une grande réussite antérieure. Tous ces stratagèmes qui témoignent d'une volonté marquée des développeurs de modifier ou d'améliorer le signe de la barre de vie ne vont en réalité que dans une seule et même direction. La virtualiser, la priver de toute connexion avec les personnages contrôlés et exhiber son caractère arbitraire et artificiel. Elle apparaît de plus en plus en accord avec son rôle véritable, qui est d'être un score, un résultat sanctionnant l'intelligence de jeu, la gestion des difficultés, l'appropriation du personnage. C'est alors le seul élément qui permet de rattacher les jeux de combat aux médias dans son ensemble, en se réappropriant la relation action-récompense et en proposant une progression non spatiale, comme dans les jeux d'aventure ou de plateforme, principe déjà évoqué par le passé par l'intermédiaire de Banjo-Kazooie et de Diablo, mais chiffré comme dans les jeux de sport. Il n'est alors pas un hasard que ce soit ce type de jeu, au même titre que les jeux de course, qui ait fait l'objet, avant nul autre, de compétitions et de concours, souvent à haut niveau. Ils sont des équivalents très fidèles des sports traditionnels, tout en dissimulant suffisamment leurs atours pour permettre aux plus asociaux des geeks de ne pas se rendre compte qu'il est au même niveau que le footballeur de sa classe. En définitive, la barre de vie est non seulement représentative du jeu de combat en particulier et du jeu vidéo en général, mais elle est nécessaire. Il suffit, et nous voyons ça très régulièrement dans les images humoristiques, d'ajouter ce symbole pour qu'immédiatement toute situation se virtualise et devienne jeu vidéo. Prenez une photo de quiconque. Ajouter sous Photoshop une barre de vie. Le voilà se changer en héros ou en méchant d'un titre quelconque. Faites de même avec un chat, un chien, un arbre, un caillou, la moindre feuille de papier. Et immédiatement, l'effet se produit. La virtualisation n'agit pas parce que nous attribuons une valeur numérique à une existence, mais bien au contraire. Parce que nous juxtaposons deux éléments n'ayant pas de relation motivée l'un vis-à-vis de l'autre. Cette esthétique du montage, que l'on retrouve surtout dans le cadre du cinéma où il est signifiant, tire parti du lien que notre esprit effectue et de la quête perpétuelle de sens qu'il recherche. La barre de vie est on ne peut plus représentative de ceci. symbole de réussite des actions du joueur, narrative par sa progression et arbitraire par ce qu'elle représente effectivement, elle ne peut jamais être considérée que comme tirant un jeu du côté de la réalisation. En vérité, pour qu'un jeu de combat soit des plus réalistes, il faudrait qu'il se passe définitivement de ceci. Mais ce faisant, serait-il encore considéré comme un jeu vidéo ?
Cinquième partie, le jeu, la vidéo et le reste.
Pour conclure, j'aimerais revenir rapidement sur un élément dit à l'instant. L'idée que la barre de vie, dans un jeu de combat notamment, était narrative au même titre que l'espace dans un jeu d'aventure ou de plateforme. Il faut noter cependant, et à côté de cela, que le scénario des jeux de combat est l'objet, plus que nul autre, des moqueries de chacun. Et effectivement, s'il est un genre de jeu où le scénario ou l'histoire contée est réellement mise de côté et inutile, c'est bien celui-ci. Les puzzle games, de même, se passent très volontiers de scénarios. Mais contrairement à ces derniers, les développeurs persistent encore et encore à inclure des histoires et à tisser des relations souvent complexes entre tous les protagonistes. Nous pouvons alors nous demander la raison derrière cela. Et il me semble qu'il est possible de faire un parallèle avec ce que nous avons dit ici sur la barre de vie. Contrairement à une aventure qui compose la majorité des jeux que nous connaissons, il n'est nul besoin d'avoir une histoire dans un jeu de sport. La rencontre entre deux équipes ou deux sportifs est motivée par un calendrier arbitraire et non pour une histoire de vengeance. L'on peut toujours arguer que les équipes ont un passif ou que les sportifs ont tel ou tel type de relation, mais cela n'a pas provoqué la rencontre en elle-même. Les jeux de combat se trouvent alors, dès leur origine, au sein d'un problème inextricable. Autant leur propos peut se réduire à une comparaison de scores, comme cette émission l'a montré, autant il convient de donner une raison quant aux combats qui ont lieu. Le principe du tournoi, l'un des plus vieux en la matière, a ceci de malaisé qu'il rattache bien trop visiblement le jeu au sport. Et comme la narration endossée par la barre de vie est purement celle que l'on peut trouver dans une compétition, il faut la compléter d'une autre strate narrative. C'est ainsi que l'on se retrouve, rapidement, avec des écrans de fin où le vainqueur lance une dernière tirade avant de partir vers son prochain combat. Des cinématiques infinies et des histoires emberlificotées. Il ne s'agit pas pour les développeurs de créer du gras, ou même, à dire vrai, d'être sincèrement convaincus que les joueurs se passionneront pour ces éléments, le plus souvent bâclés ou caricaturaux, mais de résoudre ce problème et de faire en sorte que la narration propre au versant vidéographique du jeu vidéo soit présent. Dans cet équilibre entre le ludisme et l'histoire, les contraires s'annulent. Et quand nous avons un signe aussi artificiel que la barre de vie, il faut bien, de l'autre côté du spectre, une histoire aussi artificielle que possible pour que le tout soit cohérent. Aussi, la prochaine fois qu'un test ou qu'une revue d'un jeu de combat se moque ouvertement du scénario d'un versus fighting, souriez doucement. À l'instar de la cale qui empêche votre table de salon de renverser votre assiette, c'est l'objet nécessaire à la bonne tenue de la structure entière.